Jeanne Amombel, vous êtes venue comment à cette musique ?
Alors, je suis artiste en résidence à l'Orchestre de Bretagne depuis un an et demi, et encore pour une durée de un an et demi. Et j'ai été invitée en tant que violoniste de jazz, de classique aussi, et aussi de chef d'orchestre. C'est-à-dire que c'est une résidence qui a été un tout petit peu fait sur mesure par rapport à mon parcours qui est assez multiple en fait. Et comme j'ai une assez grande connaissance du jazz et du coup aussi de la direction d'orchestre et de certaines musiques traditionnelles, je suis souvent appelée pour ce genre de projet où je suis un peu un intermédiaire entre l'orchestre et la musique improvisée ou musique du monde. Et donc ce programme-là, en fait j'ai été invitée pour diriger ce programme qui était à la base beaucoup plus orienté moitié classique et moitié création et ce que vous venez d'entendre, mais pour des raisons de mesures Covid, etc., on a perdu un soliste qui était Abel Selakoué. Et du coup, ça devient un concert vraiment autour de ses coups et de quelques pièces classiques du répertoire. Disons que c'est plein de chemins différents qui m'amènent là, mais je pense que c'est d'abord par le fait que je suis une chef d'orchestre capable d'amener le son acoustique d'un orchestre dans une ambiance de musique plus amplifiée et plus improvisée et vice-versa. Et forcément qui m'intéresse énormément parce que c'est une musique que j'aime beaucoup par ailleurs, mais c'est la première fois que je fais vraiment un concert qui est vraiment dédié 100% à cette musique.
Et quelle est la difficulté que l'on rencontre ?
Elle est majoritairement rythmique, je dirais, parce que dans la manière dont les arrangements ont été écrits, contrairement à pas mal de concerts parfois où c'est un peu décevant les parties d'orchestre par rapport aux solistes devant qui jouent des choses hyper compliquées, et là on voit souvent les orchestres derrière qui font des rondes, des tenues, et il y a une vraie demande de l'Orchestre de Bretagne qui est de s'ils font ce répertoire-là, de s'impliquer vraiment en tant qu'orchestre et que les phrasés, les choses soient vraiment travaillées à fond et d'avoir des parties qui soient intéressantes à jouer et qui soient importantes pour eux à jouer. Et je dirais du coup que là, dans ce programme spécifique, l'orchestre est considéré presque comme une extension de la chora. C'est-à-dire que toutes ces cordes de la chora, où parfois il y a des thèmes qui ressortent, il y a beaucoup de strates différentes, et les membres de l'orchestre vont toujours attraper une corde, plus ou moins ça qui se passe, et du coup c'est comme si l'instrument de la chora prenait beaucoup plus d'ampleur à travers l'orchestre, plus qu'un accompagnement. Et du coup, ça demande énormément de rigueur rythmique pour que ce soit bien en osmose et en phase avec le soliste, qui est un peu un challenge, parce que voilà, on est sur un... mais sur autre chose que juste des tenues, etc. Donc c'est quelque chose de rythmique, et puis ensuite de trouver la beauté du son et la douceur qui doit aller à certains endroits ou plus de vivacité à d'autres, et de travailler sur ces plans sonores qui définissent cette musique-là, qui est en fait assez simple mélodiquement, dans le sens où c'est toujours la même mélodie souvent qui est répétée, mais du coup comment on crée la tension avec ça, et comment on amène la fin d'un morceau, et comment on fait monter le son et l'osmose entre les gens jusqu'à... Il y a beaucoup la question du développement qui est présente dans cette musique.
Et alors, de Fela Sorbandé, c'était une découverte pour vous, Fela Sorbandé, ou vous connaissiez ?
Je ne connaissais pas du tout, c'était une découverte. Ce sont des idées, les propositions souvent de Mark Feldman qui passe beaucoup de temps à dénicher des compositeurs que l'on connaît moins. Et c'est une pièce intéressante parce qu'elle est très classique dans son écriture, et même il y a un vrai... Enfin, je veux dire, c'est en 5 mouvements, c'est très à l'européenne, entre guillemets, par rapport à ce qui est assumé lui-même dans cette musique-là, c'est-à-dire on reconnaît des idiomes de la musique classique de cette époque-là, Debussy, Dvorak, très clairement...
Copland aussi, on trouve.
Exact, il y a Copland aussi, c'est très explicite, je veux dire, c'est très assumé, tout en incorporant certains... rythme, certains motifs de musique nigérienne, sénégalaise, Ghana, qui ressortent très clairement aussi. Il y a cette dualité un peu dans cette musique entre la racine traditionnelle qui parfois émane dans le son, mais dans un contexte vraiment d'œuvre classique. Donc on le travaille exactement comme on travaille une œuvre classique, un Debussy, un Poulenc, je ne sais pas, mais avec cette, pour le coup, cette rigueur que demande la musique totalement écrite, en fait, pour orchestre à cordes, en plus, non pas forcément évident, parce qu'on n'a pas tout le moelleux de tout un orchestre symphonique. Donc, ça a été un travail intéressant pour moi de chercher ce son-là et la justesse par rapport à l'interprétation. Je pense que ce genre de pièces qui ne sont pas forcément très connues, on peut avoir la mauvaise tendance d'aller un peu à la va-vite en disant c'est un peu simple, mais en fait, les musiques simples, si elles ne sont pas hyper bien jouées, c'est une catastrophe, en fait. Il ne faut jamais se dire que quand c'est simple, c'est simple.
Oui. Mais c'est en même temps l'idée que ce n'est pas encore une musique interprétée au sens très travaillé souvent par d'autres orchestres. C'est peut-être ça oui, aussi. Donc on se trouve un peu devant une oreille un peu neuve. En même temps, on a une musique qui semble venir d'un passé quand même, d'une cinquantaine d'années. Et puis de se dire qu'il n'y a quand même pas énormément d'interprétations et que donc on peut encore fouiller dans la matière sonore écrite.
C'est très paradoxal, oui, c'est ça. C'est que c'est à la fois, quand on ne connaît pas une pièce, on l'aborde comme une création contemporaine, mais sauf qu'on est tout de suite. On rencontre les harmonies qui nous sont chères, qu'on connaît de la musique d'avant, de certains modes de musique qui résonnent parce qu'elle est plus ancienne. En fait. On résonne forcément un peu plus à ce qui est plus ancien, je ne sais pas pourquoi, mais c'est. On reconnaît des choses et on reconnaît des choses de l'humain aussi qui transparaît déjà à cette époque-là. Il y a quelque chose de toujours très touchant d'entendre la musique du passé, mais avec une approche de bon, bah, j'ai écouté une version avant de le travailler et de le diriger. Et clairement, c'est pas comme s'il y avait 30 possibilités, 30 versions différentes à écouter comme une symphonie de Mozart. Donc bon, c'est un terrain beaucoup plus vierge pour l'interprétation.
Est-ce qu'on reconnaît des éléments d'Afrique ? Vous m'avez dit sur le plan rythmique, mais quand vous l'avez vu, probablement que les éléments d'Afrique, vous ne les avez pas, du moins très peu, probablement, peut-être plus du jazz, ou d'une manière transposée oui. par le jazz. Est-ce que ça a joué, cet élément-là, de votre culture du jazz, dans votre lecture, dans votre approche ?
À vrai dire, pas vraiment dans cette pièce-là, parce que dans la manière dont c'est fait, il n'y a rien de swing ou quoi que ce soit. On est vraiment sur des thèmes traditionnels africains et sur ensuite une mise en abîme de ces thèmes et mise en musique de ces thèmes qui est très classique. Et finalement...
Un peu comme Dvorak.
Exactement. Et en fait, du coup, je l'envisage vraiment comme une pièce classique quand je la dirige. Contrairement à la création, par exemple, les créations que l'on joue après de Sekou, où là, je suis beaucoup plus à même de chercher des choses rythmiques, des accents, des choses que, pour le coup, j'ai beaucoup plus l'habitude de travailler en jazz. Mais dans la musique de Fela Sawande, non, je considère vraiment ça plutôt exactement comme un Dvorak, où il y a des thèmes traditionnels qui arrivent, mais en fait, on les traite
à l'occidental.
Voilà.
Comme on dit. Bon, à la Brahms, disons, parce que c'est le modèle. On peut pas se dire ça, c'est la manière de Brahms. Il traitait les thèmes populaires, on les retrouve. Oui. Peut-être pour presque, il a préfabriqué un idiome de comment traiter le thème populaire. J'irais presque, quand on regarde la musique de Brahms parfois, quand il fait dans ses variations.
Oui, et puis il faut pas oublier que le compositeur nous laisse des indications sur la partition, et plus il laisse des indications, moins on est libre en fait. Et donc là, il y en a énormément dans cette partition, donc il avait l'air d'avoir une idée très précise de ce qu'il veut entendre. Donc, le rôle du chef d'orchestre à ce moment-là, c'est pas de faire son interprétation idéale du chef, mais c'est justement de servir au mieux le compositeur. Et dans le cas de ce morceau-là, je pense qu'il avait une idée assez précise de ce qu'il voulait, des tempos, etc., et que j'essaye de respecter au mieux en tout cas.
Alors, et de ces coups qu'éteint, je regardais tout à l'heure la partition, je me dis, ah, mais il a écrit la partition, c'est une partition écrite. Alors, ça, c'est pas évident pour l'occidental qui regarde. Et vous avez réagi comment comment ça s'est passé, votre relation avec l'écriture de Sekou Keita et...
Je dirais que ce qui se passe dans les cas d'un soliste qui a une idée très précise de ce qu'il veut, mais qui n'écrit pas la musique, non. Il a travaillé avec un arrangeur qui a écrit les partitions, donc qui a transcrit en tout cas ce que lui entendait. Et donc dès lors que ça devient du traitement fait sur une partition, un score, en fait tout d'un coup ça devient une partition que dès qu'on la met sur le pupitre, elle existe et la musique existe, il n'y a plus qu'à la jouer. On n'est pas dans un rapport avec l'orchestre où on demande à l'orchestre d'improviser, où on demande à l'orchestre de chercher des choses. Pour l'instant on prend ce biais qui est qui est le plus simple quand on a aussi peu de temps aussi de choisir une écriture que l'on donne aux musiciens. Mais du coup, rien que cette démarche-là, elle est très classique, en fait. Et l'enjeu, on le place ailleurs, par contre. L'enjeu, on le place une fois avec cette partition, comment on la fait vivre et comment on met en résonance l'orchestre avec le soliste. Ça, c'est le vrai enjeu, finalement.
C'est un problème d'équilibre ou un problème de sonorité, je sais pas, de timbre, de la manière dont on va articuler les timbres, entre les timbres de l'orchestre et les timbres de l'instrument?
Oui, alors bien sûr, il y a le travail du son qui est tout le temps là, mais ça, en fait, dans n'importe quelle musique. Mais je dirais, c'est sentir la musique aussi. C'est-à-dire qu'au début, quand on lit, ça paraît facile, on y arrive, parce que c'est le rythme. Mais ça sonne pas bien. Et c'est juste en le faisant chaque jour un peu qu'en fait, on sent qu'au-delà des notes et du rythme, que tout le monde fait très bien dès la première répète, ils sont très très forts, hein, cet orchestre, ils jouent n'importe quoi. Mais c'est juste qu'au-delà de ça, il y a une essence, il y a une subtilité à trouver, à sentir. Et ça, il n'y a que le temps qui est l'allié principal de ça. Et c'est pour ça que c'est le troisième jour que les choses deviennent intéressantes pour moi, parce que c'est le moment où je vois les musiciens qui se mettent à avoir absorbé et compris et commencent à bouger avec le son, et du coup qui ne réfléchissent plus cérébralement à ce qu'ils sont en train de faire, mais qui se laissent porter. Et là, le son, tout d'un coup, il prend une autre ampleur. Et c'est ce qui s'est passé à la générale.
Et là, Damien Bilorou, il est percussionniste. Cette percussion, pour vous, comment vous... On dirait que le monde de la percussion est plus facile à intégrer, parce que la culture occidentale, il n'y a pas beaucoup de percussion, à part ces quelques malheureuses timbales. Et progressivement, elles sont amplifiées. Mais là, maintenant... En fait, on peut dire que la percussion est née avec la rencontre de l'Afrique. Si on prend des gens comme Darius Milhaud, il n'y avait pas les mêmes problèmes. Est-ce que vous rencontrez des problèmes avec une percussion du type que l'on a eu là ce soir?
Oh non, pas du tout. Au contraire, dès qu'ils jouent, c'est merveilleux, ça met tout le monde d'accord. C'est très drôle parce que l'arrangement d'une des pièces, il y a des percussions qui sont jouées par les deux percussionnistes de l'orchestre.
Oui.
Et normalement, Adama ne devait pas jouer dans ces pièces-là, mais il les a rejoints assez instinctivement. Et du coup, ils se sont mis à installer le rythme, non plus à deux, mais à trois musiciens. Et tout d'un coup, en fait, il y a une espèce d'évidence qui s'est créée entre eux. Et c'est ça qui est très très beau, c'est que non, au contraire, un percussionniste de ce niveau-là est capable de s'intégrer complètement. Et du coup, ça apporte forcément une touche extrêmement intéressante et belle. Non, c'est très heureux, hein, d'avoir un percussionniste aussi fort. Et après, au niveau du timbre et du son, ben, ça a quand même rien à voir avec les percussions classiques. Donc c'est le même mode, c'est le même tempérament. Du coup, on peut s'entendre complètement sur la musique.
Et le mariage de la cora et de la harpe?
Alors ça, c'est dans Téléman, c'était mon idée, inspirée de Sekou, son disque avec Catherine Finch, où ils ont fait les variations Goldberg ensemble, et puis d'autres disques, d'autres chansons. Et je trouvais ça juste amusant et ludique de proposer au public une pièce où les gens puissent regarder les deux. Et je pense que je demanderais au public quel instrument a le plus de cordes et qui est la mère. Et c'est incomparable, bien sûr, mais je trouve ça drôle de mettre les deux instruments avec le plus de cordes un petit peu en miroir comme ça. Et d'ailleurs, la harpe commence au début du morceau et c'est la cora qui prend le relais à la fin. Et j'aimais bien cet imaginaire-là aussi de l'air de rien, comment on se passe la parole. C'est un truc de communication qui me plaît. Je trouve que dans la musique, on peut être un peu idéal à ce niveau-là. Alors, il ne faut pas hésiter.
Alors, une dernière question, c'est comment se déroule votre parcours avec l'orchestre de Bretagne? Ça va durer combien de temps?
Moi, ça fait donc un an et demi que je travaille avec eux. J'ai fait ma création Trois Reflets, qui est une création pour l'orchestre explicitement, où je suis au violon, jazz et aussi à la direction d'orchestre, et j'ai écrit la musique. Donc c'était un peu le concert de présentation de ma résidence pour montrer un peu les différentes facettes, etc. Je fais beaucoup de projets comme ça. J'ai travaillé avec Antonio Zambujo en juin dernier, et puis là, ce projet Into Africa qui va tourner l'année prochaine. Et à partir de l'été, juillet prochain, je prends des séries classiques, c'est-à-dire je vais diriger Beethoven 1, je vais diriger en octobre la 41e de Mozart, la création du monde de Mio, et probablement une symphonie de Brahms l'année d'après. Et voilà, comme ça se passe très bien avec l'orchestre, ils m'invitent pour des séries la direction un peu plus classique aussi pour qu'on voit comment on peut explorer ce répertoire-là. C'est toujours frais d'avoir un chef invité qui arrive et qui propose une vision. Et comme voilà, ça fait partie du jeu de la résidence, en tout cas, d'avoir cette possibilité-là. Et c'est une opportunité incroyable pour moi parce que ça m'a permis vraiment de voir de près un orchestre, ce que l'on peut que faire lorsqu'on est assistant ou chef principal, ce qui n'arrive pas lorsqu'on est chef d'invité. Et là, j'ai cette chance de pouvoir les côtoyer de plein de manières différentes et de comprendre plein de choses de l'orchestre. Et ils me sont très chers, je les aime beaucoup.
Et quelles caractéristiques vous trouvez à ce... Vous arrivez à définir cet orchestre par rapport à d'autres de point de vue du son, à d'autres orchestres?
Il est très très malléable et très à l'écoute, et du coup c'est possible d'aller dans plein de directions. Et ça, c'est l'ADN de cet orchestre-là, qui est de jouer du classique et de jouer d'autres musiques. Donc ils ont un très grand sens du rythme, par exemple. C'est assez impressionnant pour un orchestre, notamment avec trois reflets, je l'ai repéré. Il y avait tout un passage avec trois clarinettes qui était censé un peu swinguer à la Bernstein, comme ça, et ils l'ont fait, mais du premier coup, c'était impeccable. Et ils ont ce truc de « on joue le jeu à fond quand on est... » Et c'est très très beau à voir, parce que moi, j'ai rencontré d'autres orchestres où les gens sont au fond de leur chaise, et c'est... de regarder l'heure pour quand est-ce qu'on part, et ça arrive, ça a toujours existé, mais là il y a une vraie implication qui est très très belle, je trouve, et qui évolue beaucoup en ce moment, et je suis très curieuse de voir dans quel sens.
Et ils ont un premier violon qui a l'air très impliqué,
l'impression. Ah ouais, Fabien Goudot, qui était anciennement à l'Orchestre de Paris, qui est arrivé là il y a quelques années maintenant, et qui insuffle, je crois, quelque chose de très particulier à l'orchestre. Et très, il marque beaucoup les gens, j'ai remarqué. Les gens du public me parlent souvent du premier violon. Je pense qu'il a amené, en tout cas, un autre regard que peuvent porter les gens sur l'orchestre. Parce qu'en fait, il y a un public très, très habitué pour l'ONB. Donc, je pense que aussi le public, quand il voit arriver des jeunes musiciens, il les remarque tout de suite. Et c'est vrai que c'est un orchestre qui se rajeunit beaucoup aussi.
Donc... J'ai vu par exemple, il a fait une remarque à un moment donné sur le phrasé du Téléman pendant les répétitions, qui m'a paru très intéressante, la manière de communiquer à l'ensemble des musiciens.
C'est toujours ce qui se passe, c'est-à-dire que le chef, on est là pour donner une indication, mais par contre, on a un vrai lien avec le premier violon qui a le droit de s'exprimer, de parler aussi, si ça va dans le même sens que moi. Et comme on est très raccord musicalement avec Fabien, souvent ça peut arriver effectivement que... toutes les indications qu'il donne en général sont très 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 pertinentes pour mon travail à moi et vont dans mon sens.
Dernière question, comment vous êtes venu à l'orchestre, à la direction d'orchestre, par quel c'est...
Jean-Sébastien Béraud, ça vous dit quelque chose?
Oui, bien sûr, oui, au CNSM, j'ai vu beaucoup diriger.
Et ben, je l'ai rencontré par hasard il y a 5 ans, et j'ai beaucoup aimé sa science, son amour de l'analyse et la manière qu'il avait de parler de la musique. Et il m'a fait juste prendre conscience qu'il y avait un univers infini là-dedans. Je crois que je suis très très... J'adore l'analyse et la partition. Et du coup, j'ai commencé à étudier avec lui pendant 2-3 ans. Puis en fait, très vite, j'ai volé un peu mes propres ailes. J'ai monté ma propre compagnie d'opéra avec deux amis qui maintenant, c'est Miroirs étendus, qui maintenant marche assez bien, où on explore beaucoup le répertoire contemporain. Et donc, sur le tas, en fait, j'ai appris assez vite à diriger des opéras et de l'ensemble. Et ensuite... par le travail d'analyse, de partition, par les opportunités qui ont commencé à arriver, parce que ça se passait bien, j'étais réinvitée. Donc là, cette année a été une année où je dirigeais 4 nouveaux orchestres nationaux. Et je suis vraiment au tournant c'est en train de prendre le dessus très clairement sur mon activité de violoniste, mais ça ne me déplaît pas du tout.
Merci, Fiona Mombay.